L'univers qu'on décrit, nous, dans le dernier Maquis, ça pourrait être n'importe où, en France ou en Europe. Là, c'est une zone industrielle qui semble à l'abandon, mais il reste encore des résistances, il reste des lieux de maquis, il reste un canal qui, au fur et à mesure, se transforme en un véritable fleuve tel que le Mississippi ou l'Amazonie. Et c'est des zones industrielles qu'on peut retrouver ici, à Lille, à Montpellier, à Toulouse, à Paris. Nous, on a tourné juste à proximité d'Orly, juste en dessous des couloirs aériens de la capitale. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu un très très beau décor qui nous a porté et qu'on a relevé. Mais si tu me permets, je vais résumer l'histoire très très facilement. Ça tient sur, c'est tellement simple que ça tient en une ou deux phrases. C'est dans une zone industrielle. Il y a un patron, il s'appelle Mao. Il a un garage de poids lourd et en même temps, il a une petite entreprise où il répare des palettes et où il les peint en rouge. À un moment donné, il décide d'ouvrir une mosquée et désigne l'imam arbitrairement, sans aucune concertation. Voilà, ça c'est le début de l'histoire. Après, il y a plein de choses qui se produisent. Nous, notre travail à partir d'un sujet aussi simple, c'est ensuite de faire des écarts entre la fiction, le documentaire, de faire des écarts entre le concret, la réalité brute, et puis de l'autre côté, l'abstraction poétique. Et à l'intérieur, on y installe des espaces vastes aux horizons lointains où on peut enfin faire porter des sujets politiques en plein milieu d'un écran. Dans Dernier Maquis, c'est le patron qui désigne lui-même l'imam de manière arbitraire. Il ouvre une mosquée pour ses travailleurs, on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à son devoir de musulman qui partage cette même religion communément avec ses travailleurs, qu'ils soient manœuvres ou mécaniciens? Ou est-ce que c'est par pur intérêt de classe, c'est-à-dire une manière d'instrumentaliser la religion pour qu'il puisse continuer à dominer les intérêts de ses travailleurs? Nous, on pose la question, c'est indécidable, on ne choisit pas. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. On est là tout simplement pour évoquer le sujet, à savoir de quelle manière un imam doit être désigné dans une mosquée. Aussi bien au fin fond du Kurdistan, à Bagdad, qu'ici en France. C'est bien la première fois dans l'histoire des civilisations judéo-chrétiennes, musulmanes, parce qu'en réalité, elles font partie de la même sphère culturelle. Tu vois, on a souvent tendance à dire que l'islam, c'est l'Orient, et judéo-chrétien, c'est le bassin méditerranéen. C'est pas du tout exact. En réalité, on partage communément la même sphère civilisationnelle, les mêmes philosophies, les mêmes découvertes, le même amour pour la raison. Et donc, c'est la question qu'on pose, nous, à savoir cette controverse qui a eu lieu pendant le schisme entre les sunnites et les chiites, qui était liée à la désignation de l'imam, juste après la mort du prophète. Nous, on ne fait que transposer cette controverse en France, en Europe, où la religion musulmane et les musulmans n'ont jamais été aussi massivement représentés. C'est quand même quelque chose d'important à signaler. Si on fait ça, c'est tout simplement pour rendre visible, pour pouvoir exposer un sujet politique qui jusqu'à présent a été méconnu et qu'on a souvent refoulé et occulté. Maintenant, oui, voir dans la mosquée un espace d'ouverture, un espace où le débat fait loi, où la controverse est déployée, c'est ce qu'on appelle un espace démocratique. La mosquée en est remplie. C'est non simplement un lieu où on fait la prière, mais c'est aussi un lieu et un endroit sacré où le processus démocratique devrait battre son plein en réalité. C'est pas nouveau. Ça peut paraître comme de la dynamite en le disant de cette manière, mais il n'y a rien de nouveau. Sinon, il n'y aurait pas eu autant de déchirures dans l'histoire de l'islam. Nous, on ne fait que de contextualiser cette histoire, la poursuivre et la réintroduire dans un autre espace dans lequel l'islam était absent à ses débuts. mais qui est aujourd'hui présent dans le monde entier.
Le
sujet central, en réalité, c'est la lutte des classes.
Ouais.
Tu vois, pour dire que, attendez, n'oubliez pas que c'est quand même le moteur de l'histoire. Elle continue, elle persiste et elle demeure. En dehors des oripeaux religieux et la volonté du patronat de vouloir faire mainmise sur la religion en tentant de l'instrumentaliser, en tentant de construire des lieux où ils pourraient imposer leur imam, là tu vois, waouh, ça prend déjà directement une autre dimension. On voit très bien dans le film que le patron essaye d'instrumentaliser cet espace. N'empêche, c'est dans la mosquée que les travailleurs, en contestant l'imam qu'on leur a imposé, finissent par contester leur patron. Pour te dire qu'à l'intérieur, il y a un ferment politique, il y a un ferment démocratique et même un ferment révolutionnaire. Tout simplement parce que on a affaire à un autre prolétariat. Le prolétariat qu'on découvre, nous, le peuple prolétaire qu'on découvre dans cette zone industrielle à l'abandon, il est issu de plusieurs vagues migratoires différentes. Autrefois, les patrons catholiques du début du XXe siècle, ils essayaient d'instrumentaliser la religion catholique, l'Église, en imposant par exemple à leurs travailleurs d'aller le dimanche matin à l'Église, sinon on les licenciait. Tu vois, c'est pas nouveau cette instrumentalisation. Et là, on voit que c'est un patron musulman qui le fait avec sa propre religion sur des travailleurs qui sont aussi de la même foi. Donc rien de nouveau. Mais en même temps, la mosquée, c'est autre chose. C'est pas que ça peut être seulement un espace, un outil pour manœuvrer, instrumentaliser. Mais c'est surtout pour les croyants, c'est surtout pour l'assemblée des croyants, un endroit où on fraternise, un endroit où chaque homme est frère. Et c'est ça peut-être qu'à la fin du film, le patron lui-même va rechercher en y allant seul, complètement isolé, face à lui-même et devant l'immense défi qu'il doit résoudre. En réalité, c'est une histoire qu'on a écrite en 2002, on l'a super incorporée, on a fait Blend Number One entre-temps, on est revenu dessus, on a réécrit, et là, on est reparti à l'aventure. Tu vois, c'était vraiment incorporé, et on n'avait pas besoin du scénario à ce moment-là, on a plutôt fait un tableau, une espèce de mosaïque, où à l'intérieur desquelles il y avait toutes les séquences, mais de différentes couleurs. Et nous, notre travail, c'était de s'adapter aux conditions de travail, aux conditions de l'usine, aux conditions des travailleurs. C'était pas à nous d'imposer notre plateau et nos caprices. Au contraire, nous, on a fait qu'un travail d'adaptation. Et c'est en ça qu'il y a de la liberté. Tu vois, c'est de cette manière qu'ensuite, il y a des fulgurances et qu'il y a des moments d'une réalité inouïe qui viennent nous submerger. C'est grâce à ça. Nous, dès le départ, on est dans un processus de création, de production, où on est autonome, où notre seul souci, c'est non seulement par choix et par nécessité, mais notre souci est d'utiliser à part entière et sans aucune condition toute la force et la puissance du cinéma. C'est la même équipe que depuis le début, depuis que j'ai créé Sarrazin Productions. On travaille tous ensemble. C'est la même équipe. On est quoi ? On est à peu près une douzaine de personnes. On a fait Wesh Wesh, on a fait Blend Number One, on a fait Dernier Maquis, tous ensemble et toujours réunis par ce même désir de cinéma. C'est une manière aussi pour nous de constituer une forme d'utopie poétique. C'est une manière aussi pour nous de constituer notre propre Dernier Maquis. Finalement, notre Dernier Maquis, c'est notre cinéma. C'est pour ça qu'on n'a pas de regrets, pas de reproches. C'est parce qu'on y va, on a réfléchi, on a posé le pour ou le contre, on y a mis nos couilles et bien plus. Et puis le résultat, ça se sent parce que, tu vois, c'est du cinéma à donf, quoi. Le support, il n'a pas vraiment d'importance. Mais en tout cas, le fait de travailler en numérique, nous, ça nous permet d'être d'être mobile, d'être fluide, de ne pas imposer une machinerie grotesque à des travailleurs qui n'ont jamais vu un film se produire. Nous, on est arrivé sur le lieu du tournage doucement, sur des pas feutrés. On a vu qu'il y avait une colline, on l'a escaladée, on y a installé notre caméra, on a pris des plongées. On a filmé de loin, après on a filmé le couloir aérien qui passait par-dessus, on a filmé les avions, après on a filmé le canal et enfin, finalement, bang, on est rentré dedans, on est rentré dans les rapports sociaux à hauteur d'homme, dans les rapports humains, dans les rapports de force, dans la lutte des classes. Mais on a fait ça doucement, pour ça il a fallu qu'on se côtoie, qu'on s'aborde et que finalement on fraternise. Au départ, les manœuvres du film, ce sont de véritables manœuvres. Et au fur et à mesure, ils se transforment en acteurs. Au départ, lorsqu'ils nous voient arriver avec des caméras, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire dans ce monde insolite? Comment cela se fait-il qu'on peut les intéresser? Ah, on a donc un intérêt. Et au fur et à mesure, tu vois, ils ont vu de quelle manière on s'impliquait, de quelle manière on persistait, de quelle manière on se camouflait presque, parce qu'on est devenu pratiquement invisible. Le plateau, c'était le plateau, c'était notre décor et c'était aussi le lieu de production. L'usine travaillait pendant qu'on tournait. Avec tout, oui, nous on s'adapte et après, il y a de la beauté qui s'en dégage. Et par conséquent, tu vois, lorsqu'ils ont vu de quelle manière nous, on désirait capturer notre film, de quelle manière on désirait se l'accaparer. Parce que tu vois, un film, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, hein. C'est quelque chose qu'on sent, c'est quelque chose dont on suit les traces, c'est quelque chose qu'on traque. Et avec un peu de chance et un peu de bienveillance, on peut finir par le capturer. C'est qu'on s'engage dans notre cinéma. On s'engage corps, cœur et âme ouverts et complètement déployés à toutes les combinaisons et à toutes les interrelations qui peuvent naître de cet art majeur. Tu vois, nous, pendant l'écriture, on s'est amusé à faire de la peinture. Pendant des périodes de flottement, on arrêtait d'écrire et j'allais attaquer les pinceaux et c'est les couleurs primaires qui revenaient, c'est le rouge, c'est le jaune, un peu de bleu parfois. Et je me suis amusé à peindre des structures où il y avait oui, de la lumière qui s'en dégageait. Et finalement, ce que j'avais peint, c'était carrément et étrangement, c'était le dernier plan du film. Tu vois, déjà, nous, on se dit, waouh, il se passe quelque chose d'étrange. Tu vois, mais c'est en étant à l'écoute et en étant attentif à un certain nombre de signes et aussi à la bienveillance des circonstances et des rencontres qu'on peut se rendre compte à quel moment le film est là et à quel moment on peut finalement être sûr qu'il nous portera. Jusqu'à présent, nous, le cinéma, la plupart du temps, c'est pour ça que j'y vais rarement, c'est quoi? C'est du divertissement, mais du divertissement qui consiste simplement à faire passer de la propagande. C'est un outil de propagande de la civilisation américano, je sais pas, mes couilles là. Et non, mais c'est clair, regarde Hulk, regarde Iron Man, tu flippes ta race, c'est incroyable. J'ai vu ça dans l'avion en allant au Québec. Non, pour moi, c'est. Attends, putain, tu fais de la peinture, de l'architecture, tu fais de la musique, tu t'éclates à faire de la sculpture. C'est un immense bonheur, c'est un super grand privilège que de faire du cinéma. On va pas abuser, mais en même temps, on va pas se gêner pour utiliser toute sa force. Et sa force, c'est d'en faire un art politique. Tu vois, c'est de faire du cinéma un outil de connaissance qui permet à chacun de nous de porter une réflexion sur le monde, sur lui-même et sur son dernier maquis. Tout de même, c'est pas rien. C'est permettre de. Ouais, c'est permettre de. Au peuple, au peuple du cinéma, à celui qui visite les écrans géants, c'est lui permettre de considérer le cinéma tu vois, un outil d'une pensée collective. Putain, c'est balèze, quoi. Waouh, donc tu vois que c'est un immense bonheur quoi, de faire du cinéma. Et c'est pour ça que nous, on y met notre patate. Et c'est pour ça qu'on a confiance aussi en ce qu'on fait. Tu vois, parce que. On n'a rien, parce que franchement, on n'a rien à se reprocher. On pousse tellement les intervalles entre les valeurs documentaires, les valeurs fictionnelles, entre la poésie, entre la cruauté de nos réalités, que finalement, bang, tu vois, à chaque fois, qu'on le veuille ou non, on tape dans le mille. C'est un peu ça pour nous le cinéma, c'est comme si on faisait de l'alpinisme. Quand on a la sensation d'avoir été porté, quand on a la sensation comme un alpiniste d'avoir gravi une immense montagne et qu'à un moment on perd nos forces et on est rempli de doutes et il y a quelque chose qui vient doucement, légèrement, comme un nuage, comme tu vois, un nuage rempli de désir et d'affection qui vient nous dire encore courage, un peu d'audace, il reste quelques mètres. Un côté exploit dans le sens explorateur, parce qu'on va explorer, tous les styles, tous les genres, toutes les fonctions, jusqu'à faire de la psychologie à deux balles, mais on y va à donf. Et l'exploration, c'est pas rien, tu vois, explorer le cinéma de manière formelle, ça nous permet justement, dans Blade Number One, tu vois, de visiter l'impressionnisme, et là, dans Dernier Maquis, de visiter carrément et radicalement l'expressionnisme. Ce sont quand même deux figures artistiques conséquentes, je crois. Et nous, qu'est-ce qu'on voulait découvrir à travers ce film finalement, que déjà la lutte des classes et ce fameux moteur de l'histoire, que de tout temps la religion a été instrumentalisée, mais que cependant il y a entre les murs ou par-dessus les murs, par-dessus les murailles ou les barricades. Par-dessus les minarets ou bien les lieux de prière à ciel ouvert, par-dessus il y a de la lumière. Il y a de la lumière, il y a de la lumière en nous, même si il faut passer par une forme d'opacité avant. Moi je crois que la lumière elle vient dans l'intention. L'intention, quand tu déclares, quand tu proclames. J'ai l'intention de plonger dans le cœur d'un peuple méconnu. J'ai l'intention de plonger dans un rouge qui, jusqu'à présent, peut nous paraître obsolète, mais qui reste vivement d'actualité, parce que c'est le rouge du peuple, c'est le rouge du sacrifice, c'est le rouge des Indiens, c'est le rouge de la colère et de la passion, et de la révolution. Donc, nous, on combine tout ça, on l'amalgame, et puis on en fait une œuvre d'art contemporaine, qui sillonne les zones industrielles comme si c'était une fiac, une foire d'art contemporain. Donc, parce que nos palettes, regarde, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait de ces quelques morceaux de bois rouge, on en fait des installations d'art plastique, tu vois, qui n'arrêtent pas de bouger, qui n'arrêtent pas de nous dessiner des impasses ou des avenues. Que le cinéma permette cette abstraction pour décrire une réalité sociale abjecte et absolument. Pas traité, parce que pas traité, c'est pas suffisant, parce que je devrais parler des conditions de travail, des conditions de vie de ce sous-prolétariat qu'on a ramené de nos anciennes colonies pour réparer et peindre ses palettes. On pourrait parler beaucoup d'autres choses, mais voilà quoi, on a eu une super belle chance et puis je tiens à lui rendre grâce. Merci à cette bienveillance hasardeuse. C'est pas. Écoute, tu sais, après des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de conditionnement, d'endoctrinement passif par des médias d'une force hallucinante, que ce soit la télé, parfois la radio, et le cinéma. Le cinéma est un outil de propagande, et on n'a pas lésiné sur les moyens, ça, à coups de millions et de millions de dollars ou je ne sais quelle monnaie. Simplement pour nous décérébrer, nous enlever les quelques grammes de neurones qui nous restent. Les mecs, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils racontent des histoires à deux balles d'amour, ou bien de problèmes psychologiques de quelques trentenaires qui ne sont même pas désœuvrés. En quoi ça va me pousser, moi, à me sentir représenté? Ou bien en quoi ça va m'interpeller? En quoi je vais réfléchir sur ma propre situation ou bien celle de notre humanité? Non, là, il faut quand on fait du cinéma, putain, faut y aller, sinon t'en fais pas, quoi. Sinon t'en fais pas, fais un autre métier, je sais pas, moi. Non, le cinéma, au contraire, tu vois, ça doit, c'est comme un livre, c'est comme une poésie, c'est comme une peinture qui est devant toi, ou une musique, une symphonie que tu écoutes plein les tympans, et d'un seul coup, tu es submergé, tous tes sens sont ouverts, et tu te dis, waouh, putain, c'est vrai, à quoi bon, qui suis-je? Et finalement, où se trouve mon dernier maquis, encore une fois? Pour moi, mon dernier maquis, c'est mon cinéma, mais pour d'autres, c'est parce que c'est là où je trouve ma liberté. Et la façon la plus facile de m'exprimer. Mais pour d'autres, c'est certainement autre chose. Mais je crois qu'il n'y a pas plus beau que d'accéder à la liberté. Ça demande beaucoup d'exigences. C'est pratiquement impossible, vu toutes les contraintes et tous les déterminismes sociaux, structurels, qui nous définissent, qui nous caractérisent et qui nous submergent. Non, il faut du temps, il faut une immense patience et beaucoup, 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 beaucoup de recherche. À un moment donné, on était en coproduction avec quelqu'un, une boîte de production prestigieuse, et puis on a dit non, c'est vraiment pas la peine, on préfère garder notre autonomie, quitte à perdre des centaines de milliers d'euros, tant pis. Parce que, à un moment ou à un autre, ils nous auraient mis une pression, ils nous auraient, tu vois. Ils auraient fait des caprices. Non, nous, on préfère rester autonome et être maître de notre sujet du début jusqu'à la fin. Pour ça, faut avoir des ressources, pour ça, faut avoir un peu de thunes. Nous, on a investi celles qu'on a gagnées avec les films précédemment. Et puis, on a été soutenu par la région Île-de-France qui sait lire les scénarios. Ce n'est pas le cas de toutes les institutions. Et par l'Accès, qui est une espèce d'institution qui permet la diversité culturelle. Putain, mais quelle chance d'habiter la France. C'est un truc qui a été préconisé par, tu sais qui? Par Chirac lui-même. Tu vois? Bon, on peut dire ce qu'on veut de ce fameux gaulliste. Mais n'empêche ce qu'il a fait, c'est chouette. Mais moi, je crois que la méconnaissance, je crois que la méconnaissance s'entretient. Tu vois que c'est même une arme politique. On entretient la méconnaissance pour éviter de savoir qui est l'autre. Pour éviter d'accepter son altérité, d'accepter sa différence. Parce qu'on croit encore dans les instances dirigeantes que pour créer des identités régionales, nationales, internationales, il faut toujours avoir un adversaire. Faut toujours avoir quelqu'un contre pour qu'on puisse savoir ce que nous sommes. C'est une drôle de façon de concevoir l'identité. Moi, je préfère l'afficher. Je préfère aller la rechercher, savoir d'où elle provient, et ensuite la laisser s'étendre avec toutes les possibilités infinies que cela peut avoir comme conséquence. Nous, on est nos propres producteurs, on fait le cinéma qu'on peut, on fait le cinéma qu'on veut. Nos références sont nombreuses, pratiquement anonymes. J'ai découvert le cinéma quand j'étais môme, avec mes premières frayeurs. En découvrant des ombres et des vampires dans les films de Murnau. Je ne savais pas qu'il s'appelait comme ça, Murnau, mais j'avais vu Nosferatu un jour. J'avais ouvert la porte de la salle à manger. Il était tard le soir et ça m'avait complètement effrayé. Et c'était peut-être pour cette raison que je fais du cinéma. C'est peut-être pour répondre à ces frayeurs-là. Tu sais, quand tu t'engages dans quoi que ce soit, après avoir réfléchi mûrement, la peur, elle n'est plus là. Hein. La peur, c'est la peur de quoi? La peur de la mort. La mort, c'est notre lot à tous. À un moment donné, il faut savoir l'accepter et autant danser avec elle plutôt que de la refuser. Non, tous les hommes sont égaux. Nous devrions être tous frères et par conséquent, il n'y a personne au-dessus et en dessous de qui que ce soit. Nous, à partir de ce moment-là, chacun peut continuer à avancer et exprimer son altérité. Là, il ne s'agit pas de parler d'immigration, il s'agit de parler de prolétariat. Là, ou si tu veux qu'on parle d'immigration, allons-y depuis le début. Révolution industrielle, le capital et le patronat ont besoin de main-d'œuvre, et il va les chercher non pas dans les colonies, mais plutôt dans les régions. Bretagne, Lorraine, Midi de la France, les Cévennes. L'Auvergne aussi parfois. Et ça, c'est le premier prolétariat qui naît. C'est un prolétariat qui a subi les contraintes paternalistes, Souvent, les patrons, que ce soit en zone rurale ou bien au fin fond des zones industrielles, sont des hommes puissants, croyants, fermement catholiques, paternalistes, parce que ils attendrissent leur peuple et essaient de, ouais, essaient de les manœuvrer avec un certain nombre d'instruments. Là, cette fois, là, à ce moment-là, tu vois, c'est donc les régions. L'immigration, c'est une immigration régionale. Ensuite, c'est une immigration européenne. Ensuite, pour succéder à cette migration régionale, on va avoir des Polonais, des Italiens qui vont venir dans nos mines, dans nos usines sidérurgiques et automobiles. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une autre vague migratoire pour reconstruire la France et construire ses autoroutes et ses grands ensembles d'habitations. Là, c'est la migration nord-africaine qu'on va retrouver en majorité dans les quartiers populaires, dans les nouveaux centres urbains. Et enfin, aujourd'hui, nous avons une autre vague d'immigration qui est subsaharienne, qui elle aussi était comme les Nord-Africains, comme les Polonais, les Italiens, comme les Bretons et les Cévenols, c'est-à-dire ruraux et analphabètes. Ils viennent en France. Dans un pays qui est encore pour eux certainement le leur par rapport aux valeurs qu'ils partagent, mais étrangers géographiquement. Et ils ont besoin d'avoir des repères. Et ces repères, ce sont des repères liés à leurs pratiques culturelles et à leur religion. Cette religion, c'est l'islam. C'est là qu'ils s'apaisent et c'est là qu'ils se fraternisent. La présence de l'islam, elle est aussi vieille que les cheminées d'usines de nos zones industrielles. Et pourtant, c'est une religion qui reste méconnue de tout le monde. Il y a bien une volonté quelque part pour qu'on ne tente pas de connaître cette religion. Tout à l'heure, je vous expliquais que c'était une religion qui appartenait à la même sphère culturelle, au même bassin civilisationnel. Et pourtant, on en fait toujours une religion adversaire. Non, c'est la même. C'est simplement qu'un prolongement lié à une écologie particulière et puis à un sens de l'égalité différent.